Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature, mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de la mettre. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas.
Vous écoutez Le Tarn à l'envers, l'émission de CFM Radio qui met en lumière des hommes et des femmes qui tracent un chemin durable et réinventent notre lien à la terre et l'environnement. Chaque semaine, partons à la rencontre et à la découverte d'initiatives vertueuses et inspirantes. Le Tarn à l'envers sur CFM Radio pour cultiver l'espoir et semer demain.
Aujourd'hui, je suis à Pennes, dans le Tarn, avec Nicolas Lahaye, qui a créé, avec d'autres personnes, l'association La Ronce Vivrière. Bonjour Nicolas.
Salut Nina, bienvenue.
Merci. Est-ce que tu peux nous parler de cette association qui est toute jeune, je crois, qui a un an à peu près?
Ouais, c'est ça, tout juste un an. En fait, à la base, c'est un projet plutôt personnel. En fait, j'avais envie de m'installer en tant que maraîcher sur le territoire. Et je me suis rendu compte de plusieurs choses qui m'ont un petit peu interpellé dans ce milieu-là. Et je me suis dit, tiens, plutôt que de moi produire de la nourriture pour les habitants, je vais proposer aux habitants de produire eux-mêmes leur nourriture. Donc c'est parti de là.
Ok, donc un enjeu autour de la souveraineté alimentaire, autour de l'autonomie alimentaire. Et du coup, la Ronce Vivrière, ça propose quoi aux gens de Pennes et que aux gens de Pennes d'ailleurs?
Ouais, alors qu'aux gens de Pennes parce que... Le but, c'est justement, on parle de souveraineté alimentaire, et je pense qu'il est important justement que les habitants aient le moins de distance à faire pour avoir accès à de la calorie alimentaire. Donc c'est limité aux habitants de Pennes, et même encore un peu plus loin, c'est à quelques hameaux aux alentours du projet. Je crois que c'était dit entre 2 km, 2 km et demi autour du projet. Et effectivement, donc, ça rentre dans un cadre de souveraineté alimentaire, parce qu'en creusant un petit peu, notamment en termes d'énergie, on se rend assez vite compte que notre système alimentaire a besoin de beaucoup d'énergie, notamment de pétrole pour fonctionner. Et nous-mêmes, pour avoir accès à de la nourriture, on doit consommer du pétrole. Et puis ici, en territoire rural, souvent avoir une voiture. Donc là, c'était vraiment le but de rapprocher, vraiment d'avoir un point alimentaire vraiment plus près des habitants.
Ok, donc ce point alimentaire, c'est en fait des jardins partagés que tu proposes d'animer collectivement.
Ouais, c'est ça. Alors, on est parti sur le format, en fait, avec plusieurs parcelles. En fait, chacune peut prendre une parcelle. Les parcelles vont de 20 mètres carrés jusqu'à autant qu'on veut, dans la limite forcément de la surface du jardin. Et en fait, chacun et chacune est libre d'y accéder quand il veut et de s'organiser comme il veut, comme il ou elle veut. Moi, effectivement, je donne quelques conseils. Alors, moi, je ne suis pas pro non plus... j'ai beau avoir mon BPREA, mais je ne suis pas non plus maraîcher pro. J'ai un petit peu d'expérience, mais pas très grande non plus. Donc je partage au moins pour les débutants, les débutantes. Et puis après, petit à petit, tous ensemble, on apprend entre nous. Donc en fait, oui, chacun est autonome. On a une petite participation financière maintenant qui est de 15 euros pour pouvoir payer l'assurance. Mais sinon, ça va surtout quand tu as par exemple, 200 ou 300 mètres carrés pour ce prix-là, c'est vrai que c'est plutôt abordable. Et surtout qu'en plus, on a, avec les financements qu'on a pu avoir, on a tous les outils à dispo, on a une pompe pour pomper l'eau un peu dans l'Aveyron, on a des cuves de stockage d'eau pour l'été, des abris, enfin voilà, donc tout est à dispo de tout le monde et puis on s'organise aussi pour amener en commun tout ce qui est amendement, donc fumier, paille, foin, etc. Donc voilà, donc en fait, concrètement, les gens qui viennent là, en fait, n'ont qu'à payer les 15 euros là. Effectivement, il y a une charte aussi, j'en ai pas parlé, mais il y a une charte quand même et un règlement intérieur à respecter. Et après, s'ils y vont quand ils veulent, ils produisent ce qu'ils veulent. Du moment, et ça c'est ça qui est important, que c'est pour produire de l'alimentation végétale. Donc effectivement, on va pas prendre une parcelle pour faire un élevage de poulet ou autre. Et surtout, on respecte des pratiques agroécologiques. Et ça, on est vraiment un point d'orgue là-dessus. C'est-à-dire que on va utiliser beaucoup les grelinettes et les fourches bêches plutôt que le motoculteur pour retourner la terre. Et puis, on va aussi éviter d'utiliser tout ce qui est plastique qui se facilement dégradable. C'est-à-dire tout ce qui est bâche, tout ce qui est toile de paillage, tout ça, on va pas utiliser parce que, bah, justement, éviter que des petites particules de plastique viennent se déposer dans le sol. Donc voilà, donc beaucoup autour de l'agroécologie, et moi, par contre, moi, je suis assez sensible à ça, donc là, je partage beaucoup d'expériences et de connaissances sur ce sujet-là, quoi. Je crois qu'il y a une personne qui s'essaye à la syntropie, c'est-à-dire d'avoir une rotation de plantation très, 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 très rapide pour faire beaucoup de matière organique. Nous, on teste un peu l'agroforesterie. Moi, j'ai un jardin qui fait à peu près 800 mètres carrés, un potager. Et on a planté pas mal de fruitiers, différentes strates, justement, pour amener un peu d'ombre, amener des microclimats avec un petit peu plus d'humidité. Et puis, donc voilà, entre autres pratiques, voilà. On essaye ça.
Et du coup, c'est la mairie qui vous a mis à disposition ce terrain ? Comment ça s'est passé ?
Alors non, ça c'est... à la base, c'est un terrain que j'ai acheté moi, justement, pour faire du maraîchage, à la base. Donc le terrain est privé, mais je le mets à la disposition de l'association avec c'est même pas... Ça, on a pensé au bail amphithéotique, mais là, pour l'instant, c'est juste un commoda qui est renouvelable. On a mis quelques conditions dessus entre l'asso et moi. Mais voilà, pour l'instant, ça fonctionne comme ça, ouais.
La mayonnaise, elle a pris. L'intérêt est là, l'énergie, la motivation, tout est là.
Ouais, complètement. Et elle était même là avant même que le projet se mette en place. Parce que pour le lancer, donc moi, j'ai acheté le terrain avec mes fonds. Mais il y avait quand même le coût total du projet, en considérant toutes les installations, les outils, la clôture, parce qu'il a fallu qu'on clôture tout ça. La surface, c'est quand même assez pas négligeable. Bah, il fallait quand même, en tout, le projet, c'était coûté 20 000 euros à peu près. Moi, j'ai mis 6 000 pour acheter le terrain, donc il manquait 14 000. Et en fait, j'ai lancé un crowdfunding. Et il s'est avéré qu'au bout de 6 mois, en fait, on a récupéré quand même 6 000 euros et quasiment que des gens de la commune et des alentours. Donc déjà, rien que ça, déjà, avant même qu'il y ait des adhérents ou que ce soit lancé, déjà, il y avait un intérêt pour ce genre de projet-là de la part des habitants, déjà. Donc ça, c'était chouette. Et après, effectivement, dès que j'ai créé l'asso en janvier, et ouais, des mois de février, on était déjà une douzaine déjà d'adhérents, déjà, et d'adhérentes. Donc effectivement, oui, ça a vite pris, je crois. Il y avait en fait, une demande ou un besoin qui était un peu caché, on va dire, parce que je ne suis pas allé non plus prospecter avant. C'est vrai que je ne me suis pas posé la question, est-ce qu'il y a un besoin ? Je me sentais qu'il y avait un besoin d'un point de vue de l'alimentation. Mais est-ce que les gens voulaient vraiment d'eux-mêmes apprendre à produire leur nourriture ? C'était pas dit. Mais en fait, si, en fait, ça a pris...
Et puis en plus, dans l'espace rural, souvent, les gens ont des jardins, ou en tout cas la plupart du temps, et du coup, se dire « Ah tiens, les personnes de peine vont avoir envie d'aller dans un autre jardin que le leur et produire leur nourriture », ou c'était pas forcément dit, mais c'est un pari réussi.
C'était pas forcément dit, mais c'est vrai que c'est un peu une fausse idée, ce truc que j'avais aussi. On se dit en milieu rural, tout le monde a un bout de jardin, etc. Et en fait, notamment sur Penne, par exemple, on a des hameaux avec beaucoup de maisons mitoyennes. Ici, on a des bastides qui sont sur des roches, souvent en hauteur. Donc, on n'a pas accès forcément à un sol particulier, on n'a pas forcément accès à de l'eau, à des choses comme ça. Et on pourrait croire effectivement que c'est... On est en milieu rural, du coup, on peut cultiver, faire ce qu'on veut, mais en fait, pas tant que ça. Et puis aussi, notamment le fait qu'il y a des gens qui ont envie de faire aussi ensemble, ou qui sont seuls, ils ont beau avoir un petit bout de jardin chez eux, mais en fait, tout seuls, ils savent pas, ils peuvent pas démarrer, ils savent pas comment on fait. Donc le fait d'être ensemble à plusieurs, et de regarder un peu comment chacune fait, et d'avoir des conseils réguliers, bah, du coup, ça incite peut-être justement à...
Puis ça motive. Aller.
Puis ça motive, et cette question-là, justement, elle est intéressante, parce que quand j'en cherchais des subventions pour le projet... Je m'étais rendu compte qu'il y avait le financement France Relance, qui est au niveau national, qui finançait, alors qu'il y avait une enveloppe assez conséquente pour les jardins partagés urbains, mais qui n'en avait pas pour les jardins partagés ruraux. Donc c'est une question qu'on a posée avec notre députée, avec Karen Erodi, qu'on a posée justement au ministère de l'Agriculture, et en fait, qui nous a répondu que c'était les pôles d'équilibre territoriaux qui s'occupaient de ça, en fait, de ces subventions-là. Et justement, dans la question que la députée avait posée à l'Assemblée nationale, elle précisait justement qu'effectivement, on a beau vivre en territoire rural, mais ce n'est pas parce qu'on est en territoire rural qu'on a le jardin et qu'on a le temps et qu'on a un endroit qui peut être utilisé pour justement produire un peu de nourriture.
Vous avez eu aussi une subvention de coup de pouce du pôle territorial albigeois et Bastide.
Oui, exactement. Et puis celle-ci, elle est bienvenue parce que on a réussi à avoir d'autres subventions aussi, mais il manquait encore un petit peu pour pouvoir finaliser le projet. Donc j'ai eu l'information par la 4C qui avait cette aide financière. Donc on s'est dépêché de monter un petit dossier et puis de répondre, en essayant de répondre au mieux aux 4 critères qui étaient demandés par le PETR. Et donc voilà, et puis effectivement bah oui, ça a plutôt répondu à leurs attentes. Puis nous, on était très très contents d'aller récupérer ce prix, notamment plus pendant cette conférence de Serge Zaka. En plus, donc un gros climatologue, pour celles de ceux qui ne le connaissent pas, je vous invite à aller connaître un peu plus sur cette
personne. On l'a eu sur les ondes de CFM Radio.
Parfait, bah voilà.
Quand il a fait cette conférence, justement.
Ah bah super.
Il y avait un objectif d'achat particulier? Ou c'était juste global par rapport à votre projet de lancement d'Assaut?
Non, il y a quand même un projet un peu précis, c'est de continuer on a besoin de petits abris pour stocker de l'outillage, on voulait des toilettes sèches aussi, parce qu'on commence à être un peu nombreuses, on voulait installer ça, et après, on a tout un système de petites pépinières pour faire des semis, qui sont un peu, qui sont en DIY, quoi, qui sont fabriqués par nous-mêmes, on avait quand même besoin d'acheter encore un peu des matériaux, du bois, des choses comme ça.
DIY, donc, je précise, ça veut dire « do it yourself », c'est-à-dire « fais-le toi-même, construis-le toi-même, auto-construit ».
Auto-construction, c'est vrai, j'utilise un anglicisme. Et donc oui, c'est plutôt pour du matériel. Et là, pour un peu plus de confort quand même, parce que c'est vrai que l'été, effectivement... on y reste quand même 2-3 heures, donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir avoir un endroit pour se mettre à l'abri du soleil, en attendant que les arbres poussent,
c'est ça.
Par exemple. Et puis dans les prochains mois, on devrait avoir un... Enfin, je suis en train de construire un gros séchoir solaire, en fait, avec une capacité assez importante, pour que chacun, chacune dans ses jardins puisse l'utiliser, et effectivement, j'aimerais bien qu'il soit stocké à l'abri. Mmh. Pareil, on a récupéré des grands H-pailles aussi, des gros H-pailles. Alors, il n'y en a pas trop dans la région, on trouve plutôt ça dans le nord de la France. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est permaculture, c'est assez important. C'est quand même des vieilles machines manuelles assez imposantes. Et donc, on voudrait les stocker aussi à l'abri. Donc voilà, c'est vraiment ce coup de pouce, là, c'est pour continuer d'équiper l'espace, quoi.
Ok. Bah, je te propose qu'on aille faire un tour sur place.
Allez, avec plaisir. Première chose qu'on a faite, c'est puis le gros du budget, c'était de
tout clôturer.
C'était de tout clôturer, ouais. Et on ferme parce que il y a quand même pas mal d'outillage, quoi. Donc par rapport aux animaux sauvages et par rapport aussi au fait qu'on a un petit peu de matériel quand même. Donc voilà. Bah, c'est une parcelle qui fait quand même un peu plus de 4500 m², donc il y a moins quand même de mettre quand même un paquet de petits jardins. Et donc chacun a sa parcelle. Il y a des robinets tout le long là. Il y a de l'irrigation qui a été posée tout le long des jardins. Donc chaque petit jardin a accès juste à côté à un robinet.
Ouais. Qui est prélevé directement dans la rivière ou...
Alors on pompe dans la rivière, on stocke dans des cuves. Pour l'instant on a 6000 litres de stockage, mais on va justement grâce à la subvention qu'on a eue à coup de pouce, on va pouvoir passer à 12 m³ de stockage. Et en fait, c'est pas juste par gravité en fait, que l'eau des cuves descend.
Il y a encore de la place pour des nouveaux motivés?
Ouais, il y a encore de la place. Bah, là, on a
nouveaux
justement. Là, je vois qu'il y a un petit piquet qui vient de s'installer hier qui n'était pas. Donc, ça, je sais qu'il y en a qui sont déjà présents qui veulent agrandir leur jardin. Et là, hier, j'ai reçu un mail d'une personne du hameau juste à côté qui veut aussi venir s'installer. Donc, là, j'ai commencé à faucher. Donc, là, oui, il y a encore moyen de mettre. 1, 2, 3, encore 5-6 personnes en plus. Voilà, donc 5-6. Et après, si besoin, il y a un autre terrain juste de l'autre côté. Pour l'instant, je ne fais rien dessus, mais peut-être à terme, ça pourrait aussi se transformer en jardin partagé aussi. Ou peut-être poulailler partagé. C'est aussi un des projets qu'on a avec quelques gens d'ici, finalement. On se dit, si on commence à cultiver un peu des légumes, des fruits et des légumes ensemble, pourquoi pas avoir peut-être un poulailler ensemble ou des choses comme ça. Donc voilà.
Donc, c'est les châssis pour faire les semis?
Ouais, c'est les châssis à semis, là il y en a deux qu'on laisse dehors, réalisés à l'aide de palettes, on a un angle à peu près à 45 degrés face au soleil, on met des vitres, et on a des petits vérins qui fonctionnent, qui montent ou qui descendent en fonction de la température, pour ouvrir ou fermer les pépinières. Et donc on en a 5 comme ça, il y en a deux, enfin 5, on a 5 structures, 3 qui sont posées à même le sol et dont on sert comme simple pépinière, et 2 qu'on surélève avec du foin pour faire des couches chaudes. On remplit dessous avec du fumier, des feuilles mortes, de l'eau, ça chauffe fort, et comme ça on peut faire nos semis de tomates, aubergines, poivrons dès le mois de début mars quoi. Donc voilà, et en plus après, on parlait des pratiques agroécologiques, on récupère tout ce compost en fait, hein, qui a créé la couche chaude, et après on le récupère pour faire notre terreau pour l'année d'après.
Okay.
Voilà, ou faire du compost pour étaler sur les planches. Donc, on utilise tout jusqu'au bout.
Et il y a la petite table pour pouvoir prendre le café ensemble quand on...
Exactement, ouais. Alors la petite table, elle est en plein soleil. Donc c'est vrai que automne, printemps, elle est très agréable. L'été, c'est plutôt un peu, sauf qu'il peut malheureusement. D'où le fait notamment d'agrandir. Il y a un abri c'est des petits abris hein, qui font moins de 20 mètres carrés. On en a un qui est bien chargé en matériel. Et sur le projet initial, il était question d'en avoir trois. Un pour le petit matériel, un pour le gros matériel et un pour nous justement pour mettre cette petite table à l'abri.
Un espace de convivialité.
Exactement. Ouais, même avec une petite cuisine quoi, enfin un truc avec une table un peu grande et qu'on puisse se retrouver là pour manger le midi, le soir. C'est vrai que c'est agréable, ça nous arrive souvent quand le soir on se retrouve là pour arroser les uns les autres. On a qui arrive avec un petit truc à manger, une petite bouteille de vin, pam pam et puis oui. Voilà.
C'est ça, remettre la convivialité et la chaleur humaine dans le jardinage.
Ouais, complètement. Ouais,
c'est important.
C'est là où tout. En fait, c'est quelque chose d'assez. Alors, je vais peut-être employer un peu un gros mot, mais c'est un peu systémique, quoi. On est là pour. On produit notre alimentation, mais c'est aussi un endroit où il y a un fort lien social, où. On agit sur pas mal, finalement, sur la mobilité aussi, parce que du coup, on réduit notre mobilité par rapport à l'accès à l'alimentation. C'est assez. C'est assez large, quoi, comme
ça vient projet. Toucher à plein d'enjeux.
Ouais, c'est ça. Quoi. Même économique, parce que finalement, quand tu commences à produire toi-même tes légumes et tes fruits, déjà, ça fait quelques économies. Quand on est dans des territoires quand même, pas forcément peines, mais aux alentours, il y a quand même pas mal de gens précaires, quand même. Donc effectivement, pouvoir produire son alimentation et faire des économies là-dessus, c'est pas négligeable, quoi.
Une vraie écologie sociale.
Ouais, et solidaire.
Et solitaire. Merci Nicolas.
Mais de rien, avec plaisir.
On peut dire que je suis, si vous voulez, optimiste parce que je crois à la force de la vie. Je crois que nous, êtres humains, nous avons beaucoup plus de moyens que nous ne pensons pour inverser des situations qui nous paraissent absolument dramatiques, qui nous paraissent sans issue. Nous sommes parfaitement capables de trouver de nouvelles issues. Nous en avons le pouvoir.